voilà, Slimane dans corner et encore Slimane qui va dépasser la barre des 20 points, en tout cas qui va arriver à 20 points déjà. Deuxième meilleur scoreur derrière les 21 points de Daniels.
Vous vous rendez compte, 40 ans.
Oui, bah comme quoi.
Oui. À la Basketball Africa League, c'est complètement incroyable.
Ouais, et ça encore, c'est le jeu rapide, le jeu de transition parfaitement exécuté avec à la finition Wael Araji. Lui aussi en totale confiance.
Ouais, il lui laisse moins assez. Il termine en force. Regardez ce qu'ils ont sur le terrain. Ils ont Majok, ils ont Slimane, ils ont Ben Rondon sur le terrain. C'est-à-dire qu'ils terminent vraiment, vraiment avec du lourd.
C'est ce qui a été constant tout au long du match. C'est justement la constance. C'est-à-dire que à aucun moment on ne se relâche.
Acrobatique. Je vais vous dire, de cette équipe de Monastir, quelque chose moi qui me choque, c'est que c'est vraiment...
Dans le bon sens.
Oui, vraiment dans le bon sens. C'est vraiment l'équipe, malgré leur... Alors c'est très difficile de bien jouer au basket quand on a un avantage d'effectif. Parce qu'on a une tendance à s'oublier, à oublier ce qu'il faut faire. Et on commence à ressentir les individualités sur le terrain. Mais c'est une équipe qui depuis le premier jour sur le terrain, joue le même basketball. Dans une situation justement, comme je vous dis, qui est pas facile, il ne laisse aucune chance à l'adversaire. J'ai hâte de voir le match contre les Patriots, mais rien que maintenant, ce que je vois maintenant à 3 minutes 23 et ce qu'ils sont encore capables de faire, c'est extrêmement impressionnant.
Bah, c'est-à-dire qu'on s'est régalé, hein, franchement, à les voir jouer. On continue de se régaler, il reste encore 3 minutes 20 à se régaler. Regardez bien cette équipe parce que on vous le dit depuis le début, c'est une équipe qui a les armes, qui a les atouts pour aller jusqu'au bout et l'ambition aussi d'aller jusqu'au bout, ce qui nous montre là depuis le début, le prouve. Et allez, un petit marché comme quoi quand on a 40 ans on peut se faire avoir sur parfois une erreur de cadet, hein.
Tout à fait. Et la bouffée d'énergie, hein, Slimane, quand même.
C'est ça son secret, en fait.
Je lui ai demandé son secret, d'ailleurs. Voilà, maintenant c'est fait.
On va lui demander.
Je lui ai demandé son secret. Qu'est-ce qui fait pour être encore avoir autant d'énergie sur le terrain?
Oui, parce que peut-être d'ailleurs que Monastir va, comme son premier match, atteindre la barre des 100 points. Allez savoir, c'est techniquement possible. Mais nous autres, pour Chris Daniels, les deux des hommes qui ont su résister. Et Daniels, il a le bon petit move avec sa main droite là pour trouver le cercle. 91-64 désormais. Plus trop fort avec... Encore.
Oui. C'est notre MVP à 40 ans, Radwan Slimane,
le capitaine.
Incroyable. Et des deux côtés, entre Daniel et lui, finalement, c'est les deux joueurs les plus âgés qui font l'action à tous les jeux.
Ah, c'était une très très belle passe. Ah, ça méritait. Passe décisive et le dunk derrière. Signé Chris Daniels. Parfaitement servi par Ben Uzo. Des petites séquences comme ça qui laissent un peu entrevoir de l'espoir côté Hoopers pour leur dernier match. Nous sommes rentrés dans les deux dernières minutes. Le speaker vient de l'annoncer. 2 minutes 2. Ah, j'espère qu'on va pouvoir vous proposer la relation entre ces deux-là alors que vous découvrez quelques statistiques.
Et des statistiques, qui ne mentent pas. Les assists, bien sûr, le jeu d'équipe et puis le pourcentage au shot qui vient justement, qui est le fruit de ces assists. Et puis à 3 points, alors festival, 14-29, c'est complètement incroyable.
El Mabrouk, la petite passe là. En direction de Mokhtar Gayaza. Cette fois, ça n'a pas marché. C'est lui qui est sanctionné. C'est ça que je voulais vous dire tout à l'heure. Il y a peu de fautes, hein, quand même, dans ce match, en général. Peu de fautes sifflées.
Et c'est un match qui a été facile à voir, justement, comme vous le dites. Peu de fautes sifflées. On a laissé jouer au bon moment et au bon endroit. Et cela, des deux côtés.
Vous avez vu le toucher, quand même, de Tyrone Sullivan, là, sur ce petit fade-away jumper. Très bien exécuté, très joli à voir. Et le drive de Omar Abada. Ballon ressorti à 3 points, c'est un petit peu long. La bataille pour le rebond continue de combattre et ça sera rendu aux Rivers Hoopers. Alors qu'on est rentré dans les deux dernières minutes, il reste 1 minute et 18 secondes très exactement. On va surveiller les statistiques de Slimane. Parce qu'il est à plus de 20 points, il est à 23 points. Reka Slimane. C'est Kasliman. Allez, le ballon dans la peinture peut-être. Non ressorti. Bonne petite feinte. Et dommage. Pour une fois qu'il y a du mouvement de côté de Hoopers.
C'était un bon mouvement parce que là pour l'instant on a vraiment des joueurs du banc qui sont sur le terrain et il y avait un bon mouvement collectif de la
banque. Quelle belle passe encore de Slimane et une passe décisive pour Omar Abada.
Et ils sont officiellement à 15 sur 30, 50% à 3 points cette équipe de Monastir.
On est rentré dans la dernière minute. Ouais, ça c'est joli même si ce n'est pas réussi.
Ça court.
Oui, le petit dunk, main droite, signé Firas Lariani. Et jusqu'au bout, c'est admirable. La constance, la solidité. Alors, on va jouer les dernières secondes. On va défendre de loin selon ce que proposent les Hoopers. S'ils veulent jouer vraiment les dernières secondes, on va vraiment défendre. Côté, tiens, la preuve. Sa preuve avec Mokhtar Gayaza.
Le petit flush.
...99 à 68. Finalement, ils vont peut-être pas atteindre la barre des 100 points, mais on peut pas être plus près. Allez, premier lancé réussi pour Simon Amé. Amé qui va finir à 2 points, puisque ce sont ses 2 premiers points. Alors qu'il reste 2 secondes et 5 dixièmes. Un dernier temps mort pour la route. Le score 99 à 70. Alors si on regarde juste le score comme ça, on se dit que c'est un blow-up. Si on voit le match, on a compris que Monastir a mis d'entrée la main sur le match, a maîtrisé ce match. Et au milieu du match, il y a eu quelques petits éclairs côté Hoopers. Alors, pas assez d'éclairs au milieu de leur tempête, mais ça laisse un peu d'espoir.
Oui, on avait une des clés pour les Hoopers, c'est justement d'avoir trois joueurs qui scorent. Et aujourd'hui, on a trouvé Daniel, donc ça, c'est une très très bonne chose.
Seconde 5 dixièmes, on n'a pas forcément envie que le match s'arrête parce que ce que nous propose l'US Monastir, c'est tellement beau, c'est tellement bien huilé, c'est tellement bien exécuté que franchement on en redemande. Et d'ailleurs vous faites bien d'en redemander parce que vous allez les retrouver très rapidement, d'abord pour leur dernier match, on vous l'a dit, c'est samedi face aux Pats, face à l'équipe locale. Je vais vous quitter un tout petit peu, Jacques, pour me préparer pour l'interview. Je vous laisse avec nos copains de Monastir.
Eh bien, ce match de l'US Monastir contre les Hoopers vient juste de se terminer par une large victoire de Monastir sur la marque de 99 à 70 contre les Hoopers, Célina. Mais on a vu quand même un petit effort des Hoopers à vouloir revenir dans le match, Célina.
C'est un petit effort qui a notamment été sanctionné par cette victoire dans le troisième carton qu'ils ont remporté, mais au fur et à mesure, du premier au dernier carton, on ne peut pas dire que cette victoire est imméritée ou que cette défaite est d'un côté ou de l'autre, parce que l'US Monastir a montré une parfaite maîtrise de son basketball, de ses mises en place tactiques et une détermination sans faille et sans verser dans l'excès de confiance pour maîtriser ce match de bout en bout.
Tout à fait, Sedina. On peut même d'ailleurs voir que l'équipe de Monastir, non seulement a un jeu qui est bien huilé, un jeu qui est bien structuré. On peut voir que c'est une équipe qui est expérimentée et dont les joueurs ont joué de nombreuses compétitions internationales. Nous avons, je crois que nous allons écouter. Donc je continue. Donc on peut voir au niveau même du banc que cette équipe de Monastir, c'est quand même 35 points. 35 points, le banc de Monastir a pu contribuer à 35 points, ce qui montre un peu la profondeur de leur banc et ce qui va faire d'eux probablement l'équipe la plus dangereuse et la plus difficile à battre parce que on peut voir du métier là-dedans, Sedina.
Oui, on peut voir beaucoup de métiers et surtout beaucoup de talent. Beaucoup de talent. Parce que là où on se plaignait d'un coaching douteux de certains techniciens, où on se plaignait d'une mise en place tactique mal maîtrisée par les joueurs, ou encore d'un mental qui n'est pas au niveau de cette compétition, il est difficile de trouver un reproche à faire à l'US Monastir sur tous
d'accord.
les aspects du
fantastique.
Jeu. Autant sur le plan tactique, technique que mental. C'est une équipe qui montre une parfaite maîtrise sur le terrain, qui, lorsqu'il y a des temps faibles, parvient à rester au contact de l'adversaire et surtout une équipe qui parvient à dérouler son basketball. On n'a pas l'impression, en tout cas, que d'après ce qu'on a vu, parce qu'on a eu à vivre pratiquement les matchs de toutes les équipes, et d'après ce qu'on a vu, sincèrement, je ne vois pas une équipe qui est au niveau de l'US Monastir sur tous les aspects du jeu. Parce que vraiment, c'est une équipe qui montre une parfaite maîtrise. Et je ne m'attendais pas également à voir une équipe maghrébine, bien qu'elles sont toujours bien en place tactiquement, mais je ne m'attendais pas à voir une équipe maghrébine proposer une telle défense, un tel niveau d'agressivité. Et surtout, on le voit, ils n'hésitent pas à aller à deux, à trois au marquage, faire des prises à deux ou plus. Vraiment. Et cela sans exposer la défense, parce qu'à chaque fois, les rotations se font aussi bien offensivement que défensivement, de sorte à ce que, même quand il y a des tirs ouverts, c'est très rare et ça, c'est remarquable.
Tout à fait, Sénat. Il faut que tu saches que cette équipe maghrébine, c'est pas n'importe laquelle, c'est le Monastir de Tunisie qui est quand même la crème de la crème aussi dans le basketball africain. C'est un programme, comme je l'ai dit plus tôt, qui a fait ses preuves ces 12 dernières années où ils sont montés en puissance, où ils ont atteint des objectifs importants, titres en nation, titres en club, et ce sont des gens qui voyagent constamment, c'est des gens qui font des stages à l'étranger, c'est des gens qui jouent à la Coupe du Monde, qui jouent aux Jeux Olympiques, qui jouent les tournois pré-olympiques, et quand ça fait ça, ça ne peut que donner que du bien. Donc on est là, on voit ce qui se passe, ils seront une des équipes, probablement l'équipe à battre dans ce tournoi, parce qu'on a vu la continuité, on a vu la constance dans les efforts, et même quand ils dominent, ils n'ont jamais cessé de jouer avec cette intensité du début jusqu'à la fin du match. Le banc qui rentre continue dans l'intensité, on voit des gens qui sont décidés à se faire plaisir en jouant. Donc c'est une très bonne chose et nous sommes très contents de voir un match de ce calibre là. Il est dommage pour les Hoopers parce que je pense que pour une ligue comme la Ligue africaine de basketball, le marché nigérian est un grand marché et de facto ils se doivent d'être à la page dans ce tournoi de très haut niveau. Et nous attendons quand même un mieux de leur part.
Oui, on s'attendait vraiment à, déjà lors du match d'ouverture, on s'attendait à un match très relevé face aux Patriots. Ça n'a pas été le cas. On s'est dit peut-être que c'est l'enjeu, le match d'ouverture, le manque d'adaptation. Mais là, on se rend compte que cette équipe de Hoopers n'a pas grand-chose à proposer face à des équipes de calibre continental. Et c'est vraiment dommage parce que, comme on l'a dit tout à l'heure à la dans le basketball nigérian, vraiment, on l'attend à un niveau qui est celui que ces équipes nationales présentent sur le plan continental et mondial, mais pas à ce niveau à ce niveau affiché par le club qui les représente, parce que, comme on l'a dit, c'est 12 équipes, mais c'est 12 équipes de 12 pays différents, donc c'est 12 basketballs qui sont représentés, et on ne peut que juger le basketball local de ces pays-là par rapport à ces équipes qui les représentent. Et si on se base sur ce que les Hoopers ont présenté, on dit juste que le basketball nigérian, en tout cas au niveau local, au niveau de la base, a beaucoup de travail à faire.
Oui. Avec ce match, on peut voir que ces équipes dans le classement dans le groupe A, le Monastir est premier, les Patriots sont premiers ex-aequo, mais avec le goal average, ils sont deuxièmes. Puis vient le GNBC qui, avec le match d'hier, s'est mieux classé finalement que les Hoopers.
Ouais.
Et donc, leur dernière journée, ce qui va décider le classement définitif de ce groupe se passera le 23 dimanche.
Ouais.
Et ça va être une chose, là, il y a Cheikh qui vient de faire son entrée dans le studio.
Ouais.
Et donc, on va continuer à parler des différents matchs qui vont se jouer. Mmh. Tout à l'heure, à 21h heure locale de Kigali, 20h de Kinshasa, 19h de Dakar, mmh. L'AS Police va rencontrer l'AS Salé. Nous verrons si ils vont pouvoir faire des ajustements qui vont leur permettre de compétir et qui sait, créer la surprise, parce que l'AS Salé n'est pas une petite équipe aussi.
Ouais.
Et donc ça va être très difficile.
Yeah.
Et je pense que peut-être Cheikh va couvrir ce match-là d'ailleurs.
On va faire une récapitulatrice du jeu du Nigeria, du match du Nigeria et les River Hoopers et l'équipe de la Tunisie. On s'attendait à ça d'une équipe comme Tunisie qui est venue faire une prestation très très de haut niveau. On les a vus au premier match, comment ils ont joué, et ils ont presque fait la même chose ici aujourd'hui, 70 points. C'est une équipe qui est talentueuse, ils savent comment se mettre sur le terrain, comment faire de l'espace sur le terrain, ils savent très bien jouer ensemble. Et comme on a dit, c'est comme un jeu européen, comme les gens passent la balle, et les gens passent la balle, ils cherchent pas à qui doit marquer quoi. Ils cherchent la personne qui est ouverte pour faire les 2 points ou 3 points, ça dépend de la situation. On a vu que l'équipe du Nigeria quand même s'est battue jusqu'à la fin, mais c'était pas assez pour être vainqueur de ce match. Et on a aussi à reconnaître que les Nigériens, c'est un pays de basket. Quand on voit les records du NBA, l'année passée, NBA Draft 2020, tous les Africains qui sont partis au NBA, il y avait 6 Nigériens, mm-hmm. parmi eux qui sont même passés dans le first round, parce que au NBA, la plupart des fois, les Africains passent au deuxième round, second round. Mais cette année, on a vu que il y avait beaucoup d'Africains, et la plupart de eux, c'était des Nigériens. Mm-hmm. Ça montre qu'il n'y a pas à sous-estimer une équipe comme le Nigeria, qui ont fait deux fêtes maintenant. À reconnaître aussi que le jeu de basket, c'est un jeu de 5 personnes, c'est pas un jeu de 2 ou 3 personnes. Mm-hmm. C'est ce qu'on a vu avec l'équipe de la Tunisie, qui joue très bien ensemble. Ils passent la balle entre eux, et ils connaissent très bien comment se mettre. Le pivot numéro 20 de l'équipe tunisienne, donc c'est un Africain. Il est très bien, il a fait beaucoup de dunks aujourd'hui, il était très agressif au poste, c'est un pivot de 2 mètres quelques, qui a beaucoup d'expérience, il faisait beaucoup de shot blocks au niveau du cerceau, offensivement et défensivement, il a pris beaucoup de rebonds au premier mi-temps. Donc, à reconnaître aussi que l'équipe nigérienne, ils avaient un joueur vraiment que tout le monde voulait, et voir Ouzo, c'est un joueur qui a beaucoup d'expérience. D'ailleurs, le seul joueur dans ce tournoi qui a joué le haut niveau NBA contre des grandes équipes comme les LeBron James, tout le monde. Donc, c'est à voir que c'est une équipe qui a beaucoup d'autres choses à offrir dans le futur s'ils font des très bons recrutements, parce que nous savons bien que c'est une équipe qui a commencé et leur équipe nationale, c'est une équipe qui était très bien dans les tournois afro-africains. Ils recrutent très bien et font beaucoup, et puis ils ont les moyens financiers pour recruter les joueurs en venir pour les Afro-Basket. Mais je pense que cette année, ils ont venu avec beaucoup de joueurs locaux. Mm-hmm. Et à part quelques joueurs qui ont des expériences en Europe et puis aux États-Unis, comme le pivot d'autres là qui a joué aussi ici aux États-Unis. Et ils avaient deux autres joueurs aussi qui ont joué au Division D et qui jouent avec l'équipe du Nigeria. Mais c'était trop difficile pour eux de vraiment relever les défis contre une équipe comme Tunisie. D'ailleurs, qu'on a vu contre l'équipe des pays organisateurs Patriotes au premier match. Donc, ça à voir que c'est comme c'est un début, comme on l'a toujours dit. Et si tu n'arrives pas à arriver dans ce tournoi-là, les gens vont bien se préparer. Les gens vont mieux se préparer. Comme tu vois que quand chaque fois qu'on perd là, les matchs, il faut revenir avec ton meilleur joueur ou ton meilleure manière tactique pour relancer les défis. Je pense que c'est ce qu'on va voir avec beaucoup des équipes qui ont perdu ce truc-là. Mais ça ne veut pas dire que les équipes-là ne sont pas talentueuses, parce que ces gens-là, ils sont beaucoup, ils sont tous talentueux. Même tu vois comment ils jouent, ça c'est un haut niveau de basket. Ça c'est plus fort que le Afro League, les Afro Basket Africa League qu'on voit. Parce que tu vois que les équipes sont très assidus et puis sont très physiques et puis sont très très techniques et ils sortent bien, et puis tu vois beaucoup des actions sur ce tournoi là qui t'excite vraiment de voir l'Afrique dans comme les NBA de l'Afrique pour nous les Africains.
Tout à fait, en tout cas ce qui est sûr, les autres saisons qui vont venir, je suis sûr que la Ligue africaine de basketball va ouvrir et donner un meilleur spectacle. Et je pense que l'effet du Covid a été très mauvais pour nous. Donc dans les années futures on va faire autrement. Je dois changer par contre, j'avais donné tout à l'heure un classement Sedina qui n'est pas juste. Au niveau du groupe A actuellement, premier Monastir, deuxième Patriote, mais troisième les Hoopers qui avec un goal average négatif de 52 points devance l'équipe de la gendarmerie juste d'un point, puisque la gendarmerie a un goal average négatif de 53 points. Et donc la dernière journée qui se jouera dans ce groupe le dimanche, on verra le GNBC affronter les Hoopers à 14h heure locale, 13h heure de Kinshasa et midi heure de Dakar.
De Dakar.
Tout à fait. Et donc tout est à jouer pour ces équipes-là qui vont se battre pour avoir la troisième place, Célina. Mais nous allons rapidement parler quand même des... parce que je crois qu'après le match de S-Police et S-Salé aujourd'hui, qui est le dernier match... de la journée, l'AS Police a énormément à jouer s'ils veulent essayer de revenir dans la course pour les quarts de finale. Il leur faudrait battre l'AS Salé. En battant l'AS Salé, ils se mettraient dans une position comme des candidats aussi à la meilleure troisième place avec l'équipe du Cameroun qui a perdu déjà deux matchs malheureusement. Il leur resterait à ce moment-là à jouer leur troisième match contre le Petro de Luanda, mais bon, comme le basket ne se ressemble pas, tout peut arriver à tout moment. Ils ont toujours eux des chances en gagnant un match aujourd'hui de se remettre dans la position, même d'avoir la deuxième place. C'est tout est possible pour eux. Et donc demain, vendredi, ce sera une journée sans match. Je ne sais pas quand est-ce que la Ligue africaine de basketball va refaire jouer le match de GSP contre Zamalek qui n'avait pas pu avoir lieu la dernière fois. Et parce que dimanche, il y a une autre journée et les quarts de finale seront le 25. Donc il y aura aussi un jour de repos, je crois, le lundi. Donc ce vendredi 21 mai et le lundi 24 mai, il y aura jour de repos pour toutes les équipes. Le 22, Il y aura trois matchs qui se joueront entre le Maputo du Mozambique et le GSP, les pétroliers d'Algérie, à 14h heure locale, 13h Kinshasa, midi Dakar, qui sera suivi par le match de Zamalek contre l'AS Douane, un match très important et très attendu par toi, Sedina, je suppose, à 17h30, 16h30 de Kinshasa et 15h30 de Dakar. Je sais que on va suivre ça avec beaucoup de sérieux. Et finalement, le match de Petro de Luanda contre l'AS Salé à 21h de Kigali, 22h de 20h de Kinshasa et 19h de Dakar. Donc on est en train d'aller vers la fin de cette émission, mais nous allons quelques derniers mots, Sedina, pour cette journée, du moins pour la deuxième journée de pour le deuxième match de cette journée.
Oui, tout à l'heure, je voudrais juste, si vous permettez, rebondir sur ce que Cheikh disait. En fait, l'équipe des Hoopers, j'y reviens parce que, comme la défaite de l'AS Douane hier, moi, cette prestation des Hoopers, leurs deux prestations, en tout cas, me laissent dubitatif parce que, pour moi, cette ligue, elle est importante parce qu'elle permet aux clubs de se montrer. Elle permet aux joueurs également de compétir à un niveau qui est pratiquement celui des équipes nationales. Mais le niveau des équipes nationales est encore un cran au-dessus parce que les joueurs qu'on a dans les équipes nationales, ils sont en NBA. Au Nigeria, au Sénégal, il y a des joueurs NBA qui sont dans les équipes nationales. Il y a des joueurs de Pro A en France qui sont dans les équipes nationales et qui sont des joueurs majeurs. Et quand ils viennent, ils apportent une plus-value. Donc, l'équipe des Hoopers, c'est une équipe qui polarise les attentes, comme je l'ai dit tantôt, de son équipe nationale. C'est là où je ne suis pas un peu d'accord avec Cheikh, parce que pour moi, cette équipe des Hoopers, elle n'a pas offert d'espoir, elle n'a pas offert de spectacle, mais surtout, elle a attiré l'attention des gens, en tout cas des journalistes sportifs que je suis, sur un fait, c'est qu'il y a un énorme décalage entre ce que les clubs, en tout cas, le club qui représente le Nigeria dans cette compétition présente et le niveau affiché par le Nigeria en compétition des équipes nationales qui est un niveau impressionnant. Parce que moi, quand je prends l'exemple du Sénégal, qui a des joueurs comme Bourguissi Dien, qui est en NBA, qui a des joueurs qui sont en D-League, qui a des joueurs comme Youssou Ndoye qui vraiment font des merveilles en Europe, et qui, cette équipe du Sénégal-là, qui est dominée mais largement par le Nigeria à plusieurs reprises, et que je vois le niveau affiché par ce club des Hoopers, je me dis qu'il y a un décalage entre l'équipe nationale A du Nigeria et le club qui le représente, et donc un décalage entre cette équipe-là et le niveau du basketball local. Et pour moi, comme je le disais tout à l'heure, c'est un modèle, en tout cas, à redéfinir pour que les clubs du Nigeria soient à l'image de leur équipe nationale, c'est-à-dire très impressionnante, très performante et surtout très redoutée en Afrique.
Tout à fait, Sedina. Il n'y a rien à discuter de tout ce que tu as dit. Il est nécessaire pour l'Afrique qu'un pays comme le Nigeria, qui est un réservoir de basketball, c'est une population de 300 millions, c'est nécessaire pour l'Afrique, pour qu'une ligue comme la Ligue africaine de basketball puisse bénéficier des meilleurs joueurs du Nigeria, du marché économique du Nigeria, pour faire en sorte que cette Ligue africaine soit beaucoup plus vibrante. Donc, de facto, c'est un signal d'alarme. Il faudrait que la Fédération nigériane de basketball fasse un effort pour que cette équipe nigériane, c'est l'équipe qui représentera le Nigeria la prochaine fois, revienne avec un jeu de meilleure qualité et qu'on voit qu'ils ont vraiment été et qu'ils se sont préparés pour la compétition. Donc aujourd'hui, c'est là qu'on s'arrête. Nous invitons pour le moment, nous invitons nos auditeurs à suivre le prochain match qui aura lieu à 21h, heure de Kigali, 20h de Kinshasa et 19h de Dakar. Et nous vous laissons au revoir de la part de Sedina à Dakar et de Eugène Pewa Pelema au studio.
C'était l'édition spéciale de VOA Afrique consacrée au tournoi historique de la Ligue africaine de basketball au Rwanda.